10. Une bonne pâte. La surveillante l'avait autorisée à partir dès que le thé de ces dames serait terminé, et il tardait à Maria de sortir pour la soirée. La cuisine rutilait, propre et nette. Le cuisinier disait même qu'on pouvait se voir dans les marmites. Le feu était vif et clair, et sur l'une des tables latérales se trouvaient 4 énormes pains d'épices. Ces pains d'épices paraissaient n'avoir pas été entamés, mais en s'approchant, on pouvait constater qu'ils avaient été découpés en longues et épaisses tranches et qu'ils étaient prêts à être servis pour le thé. Maria les avait découpés elle-même. Maria était une très petite personne en vérité, mais elle était dotée d'un très long nez et d'un très long menton. Elle avait une voix un peu nasale, toujours très douce. « Oui, ma chère, non, ma chère. » C'était toujours elle qu'on envoyait quand des femmes se querellaient à propos de leur baquet, et elle parvenait toujours à les réconcilier. Un jour, la surveillante lui avait dit « Maria, vous êtes une véritable faiseuse de paix. » Et la sous-surveillante et deux des dames du comité avaient entendu le compliment. Et Ginger Mooney disait toujours que sans Maria, l'idiote qui s'occupait des fers ne s'en sortirait pas. Tout le monde adorait Maria. Les dames prendraient leur thé à 18h, et ainsi elles pourraient s'en aller avant 19h. De Bowles Bridge, au Pilar, 20 minutes, puis du Pilar à Drumcondra, 20 minutes, et enfin 20 autres minutes pour faire les emplettes. Elle serait là avant 20h. Elle prit son porte-monnaie avec le fermoir d'argent et relut les mots « Souvenir de Belfast ». Elle adorait ce porte-monnaie que Joe lui avait rapporté 5 ans auparavant d'une virée à Belfast faite avec Alfie un lundi de Pentecôte. Dans ce porte-monnaie se trouvaient 2 demi-couronnes et quelques piécettes. Il lui resterait 5 shillings après avoir payé le tram. Quelle jolie soirée ils allaient avoir, avec tous les enfants qui chanteraient. Elle avait juste un peu peur que Joe rentre ivre. Il était tellement différent quand il buvait de l'alcool. Il lui avait souvent proposé de venir s'installer chez eux, mais elle se serait sentie encombrante, bien que la femme de Joe fût toujours très gentille avec elle. Et puis elle s'était accoutumée à la vie de la blanchisserie. Joe était un bon gars. Elle l'avait élevé, ainsi qu'Alfie, et Joe avait coutume de dire « Maman, c'est maman, mais Maria, c'est ma véritable mère. » Après que la maisonnée se fut dispersée, les gars lui avaient trouvé cette place à la blanchisserie, du blin à la lueur des lampes, et elle s'y plaisait. Elle avait eu de forts préjugés à l'encontre des protestants, mais elle trouvait maintenant que c'était des gens très bien, peut-être un peu trop calmes et sérieux, mais malgré tout très agréables à vivre. Et puis elle avait ses plantes dans la véranda et elle aimait en prendre soin. Elle avait de belles fougères et des fleurs de cire et quand quelqu'un venait lui rendre visite, elle lui donnait toujours 1 ou 2 échantillons de la véranda. Il y avait une seule chose qu'elle n'aimait pas, c'était les versets placardés dans tous les passages, mais la surveillante était une personne très agréable et très gentille. Quand la cuisinière lui annonça que tout était prêt, elle alla dans la salle des dames et fit tinter la grande cloche. En quelques minutes, les femmes arrivèrent par grappes de 2 ou 3, essuyant leurs mains fumantes dans leurs jupons et retroussant sur leurs bras non moins rouges et fumants les manches de leurs blouses. Elles s'installèrent derrière leurs énormes mugs que la cuisinière et l'idiote remplirent avec du thé chaud qu'on avait préalablement mélangé avec du lait et du sucre dans de grands pots de métal. Maria supervisa la distribution du pain d'épices et s'assura que chaque femme recevait bien ses 4 tranches. On entendit beaucoup de rires et de plaisanteries durant cette collation. Lizzie Fleming disait que Maria était bonne à marier, et bien que Fleming ait déjà dit la même chose à un très grand nombre de soirées d'Halloween, Maria dut rire et protester et dire qu'elle ne voulait ni bagaudois ni homme, et quand elle rit, ses yeux gris verts étincelèrent de timidité vaincue, et le bout de son nez atteignit pratiquement le bout de son menton. Alors Ginger Mooney leva sa tasse de thé et porta un toast à la santé de Maria, tandis que toutes les autres femmes faisaient tinter bruyamment leur mug sur la table et ajouta qu'elle était désolée de ne pas avoir une pinte de bière pour trinquer. Et Maria rit à nouveau, jusqu'à ce que le bout de son nez rencontre le bout de son menton, et jusqu'à ce que son corps minuscule menaça de se briser à force de secousses, car elle savait ce que Mooney voulait dire, bien sûr. Elle avait toutes les notions d'une femme ordinaire. Mais comme Maria était contente lorsque les femmes eurent fini leur thé et que la cuisinière et l'idiote eurent commencé à débarrasser la table du thé. Elle se rendit dans sa petite chambre et, se souvenant que le lendemain était un jour de messe, elle changea l'heure de son réveil pour la faire passer de 7 heures à 6. Puis elle retira sa jupe de travail et ses chaussons et étala sa plus belle jupe sur le lit avant d'installer ses minuscules souliers de ville au pied du lit. Elle changea également de corsage et tandis qu'elle se tenait debout devant le miroir, elle songea à la manière dont elle s'habillait pour la messe dominicale dans sa jeunesse et elle regarda, avec une drôle d'affection, le petit corps qu'elle avait si souvent orné. Malgré les années, elle trouvait que c'était un joli petit corps, bien net. Quand elle sortit, les rues luisaient de pluie, et elle fut bien contente d'avoir son vieil imperméable brun. Le tram était plein, et elle dut s'asseoir sur le strapontin au bout du wagon, faisant face à tout le monde, avec ses pieds qui touchaient à peine le sol. Elle repassa dans sa tête tout ce qu'elle allait faire, et songea qu'il valait vraiment mieux être indépendante et avoir son propre argent dans ses poches. Elle espérait que leur soirée serait bonne, elle en était sûre, mais elle ne pouvait s'empêcher de se dire que c'était bien dommage quand Joe et Alfie ne parlaient pas. Ils se querellaient sans cesse à présent, mais quand ils étaient petits, ils étaient comme les deux doigts de la main. Mais ainsi va la vie. Elle descendit de son tram à Pilar et se fraya rapidement un chemin parmi la foule. Elle alla à la pâtisserie Downs, mais la boutique était si pleine qu'elle dut attendre un long moment avant qu'on ne s'occupât d'elle. Elle acheta une douzaine de gâteaux variés et enfin sortit de la boutique alourdie d'un gros sac. Puis elle réfléchit à ce qu'elle pourrait acheter ensuite. Elle voulait quelque chose de vraiment bien. Ils auraient sans doute déjà plein de pommes et de noix. Ce n'était pas facile de savoir quoi acheter et elle ne put penser à rien de mieux qu'un gâteau. Elle décida de prendre du plum cake, mais celui de Downs manquait de glaçage à l'amande au-dessus. Alors elle se rendit dans une boutique d'Henry Street. Là, elle resta longtemps à se décider, et la jeune femme élégante derrière le comptoir, qui était manifestement légèrement agacée par sa lenteur, demanda si elle cherchait un gâteau de mariage. Cela fit rougir Maria, qui sourit à la jeune femme, mais cette dernière demeura très sérieuse et finit par couper une large tranche de plum cake avant de l'emballer et de dire « 2 shillings 4 pence ». Elle pensait devoir rester debout dans le tram de Drumcondra parce qu'aucun des jeunes gens qui étaient là ne sembla faire attention à elle. Mais un vieux gentleman lui offrit sa place. C'était un gentleman corpulent qui portait un chapeau rigide, marron. Il avait une figure rouge et carrée et portait une moustache grise. Maria se dit qu'il ressemblait à un colonel, et elle songea qu'il était beaucoup plus poli que les jeunes garçons qui se contentaient de regarder droit devant eux. Le gentleman entama une conversation avec elle à propos d'Halloween et du temps pluvieux. Il supposait que son sac était plein de bonnes choses pour les enfants, et il ajouta que les enfants avaient bien raison de s'amuser tant qu'ils étaient petits. Maria fut d'accord avec lui, et le gratifia de hochements de tête pleins d'humilité. Il était très courtois avec elle, et quand elle sortit à Canal Bridge, elle le remercia et s'inclina, et il s'inclina en retour, leva son chapeau et sourit agréablement, et tandis qu'elle longeait la balustrade, sa minuscule tête penchée sous la pluie, elle songea qu'il était facile de se lier avec un gentleman, même quand il a bu une goutte. Quand elle arriva à la maison de Joe, tout le monde s'écria « Oh, voilà Maria !» Joe était déjà là, déjà rentré de son travail, et tous les enfants portaient leurs vêtements du dimanche. Il y avait aussi 2 grandes filles voisines, et les jeux allaient bon train. Maria donna le sac de gâteaux à l'aîné des garçons, Alfie, afin qu'il les distribue, et Mrs. Donnelly dit que c'était trop gentil d'apporter un aussi gros sac de gâteaux, et elle força tous les enfants à dire « Merci Maria ». Mais Maria dit qu'elle avait acheté quelque chose de spécial aussi pour papa et maman, quelque chose qu'ils aimeraient assurément, et elle commença à chercher son plum cake. Elle regarda dans le sac de Downs, puis dans les poches de son imperméable, et enfin dans le porte-manteau, mais elle ne le trouva nulle part. Alors elle demanda à chaque enfant s'il ne l'avait pas mangé, par mégarde bien sûr, et tous les enfants dirent que non, et donnèrent l'impression de ne pas être très contents de manger des gâteaux si c'était pour se faire accuser de vol. Chacun y allait de son explication du mystère, et Mrs. Donnelly dit qu'à tous les coups Maria avait laissé le plum cake dans le tram. Maria, se souvenant de la confusion dans laquelle l'avait plongé le vieux gentleman à la moustache grise, rougit de honte, de vexation et de déception. à la pensée de l'échec de sa petite surprise et des 2 shillings 4 pence qu'elle avait jetés par les fenêtres, elle faillit éclater en larmes. Mais Joe dit que ce n'était pas grave et la fit asseoir près du feu. Il était très gentil avec elle. Il lui raconta tout ce qui se passait au bureau et lui rapporta même un bon mot qu'il avait lancé à son manager. Maria ne comprenait pas pourquoi cette fameuse répartie faisait tant rire Joe, mais elle dit que le manager devait être une personne très autoritaire. Joe dit qu'il n'était pas si terrible quand on savait le prendre et qu'il se comportait correctement pourvu qu'on ne le prenne pas à rebrousse-poil. Mrs. Donnelly joua du piano pour les enfants et ils dansèrent et chantèrent. Puis les 2 petites voisines proposèrent des noix. Personne ne réussit à trouver le casse-noix et Joe fut sur le point d'exploser à ce propos et il demanda comment diable il s'attendait à ce que Maria ouvre des noix sans casse-noix. Mais Maria dit qu'elle n'aimait pas les noix et qu'il ne fallait pas qu'il s'embête pour elle. Alors Joe lui proposa une bouteille de bière et Mrs. Donnelly dit qu'il y avait aussi du porto dans la maison si elle préférait. Maria dit que ce qu'elle préférait, c'était de ne rien prendre, mais Joe insista. Alors Maria le laissa faire et ils s'assirent au coin du feu pour parler du bon vieux temps et Maria pensa qu'elle pourrait essayer de placer un mot en faveur d'Alfie. Mais Joe s'écria que Dieu devrait le foudroyer avant qu'il n'adressât un mot à son frère, et Maria dit qu'elle s'excusait d'avoir abordé le sujet. Mrs. Donnelly dit à son mari que c'était une grande honte de parler ainsi de sa propre chair et de son propre sang. Mais Joe dit qu'Alfie n'était plus son frère et cela faillit tourner à la dispute. Joe dit qu'il ne perdrait pas son calme en ce soir de fête, et il demanda à sa femme d'ouvrir d'autres bouteilles de bière. Les 2 voisines avaient organisé des jeux d'Halloween, et bientôt l'atmosphère redevint joyeuse. Maria était ravie de voir les enfants si heureux, et Joe et sa femme de si belle humeur. Les 2 petites voisines mirent des soucoupes contenant différentes choses sur la table, puis y conduisirent les enfants, yeux bandés. L'un tira au hasard le livre de prière, et les 3 autres eurent de l'eau. Et quand l'une des voisines tira l'anneau, Mrs. Donnelly agita son doigt devant la fille rougissante comme pour lui dire « Oh, je connais ça !» Ils insistèrent pour bander les yeux de Maria et l'amenèrent à la table pour voir ce qu'elle piocherait. Et tandis qu'ils attachaient le bandeau, Maria rit et rit encore, à tel point que le bout de son nez en vint presque à toucher le bout de son menton. Ils la conduisirent jusqu'à la table, parmi les rires et les plaisanteries, et elle tendit sa main en l'air comme on le lui demandait. Elle fit errer sa main, ça et là, et la fit descendre vers l'une des soucoupes. Elle sentit une substance douce et mouillée avec ses doigts et fut surprise que personne ne parlât, ni ne lui retirât son bandeau. Il y eut un silence, pendant quelques secondes, puis une grande onde de murmures et de récriminations. Quelqu'un dit quelque chose à propos du jardin, et à la fin Mrs. Donnelly s'adressa très sèchement à l'une des 2 petites voisines et lui demanda de le jeter immédiatement. Ce n'était pas du jeu. Maria comprit que cette fois n'était pas la bonne et qu'elle devait recommencer. Cette fois, elle eut le livre de prière. Après cela, Mrs. Donnelly joua Mrs. MacLeod's Reel pour les enfants et Joe servit à Maria un verre de vin. Bientôt, ils furent à nouveau tous joyeux et Mrs. Donnelly dit que Maria entrerait au couvent avant la fin de cette année à cause du fait qu'elle avait tiré le missel. Maria n'avait jamais vu Joe si gentil avec elle que ce soir-là, si généreux en paroles aimables et en souvenirs. Elle dit qu'ils étaient tous trop bons pour elle. À la fin, les enfants commencèrent à se sentir fatigués et ensommeillés, et Joe demanda à Maria si elle ne chanterait pas une petite chanson avant de partir, une de ses vieilles chansons. Mrs. Donnelly dit « Oh oui, Maria, s'il vous plaît !» Et ainsi Maria dut se lever et se placer debout près du piano. Mrs. Donnelly fit taire les enfants et leur dit d'écouter Maria. Puis elle joua l'introduction et dit « Maintenant, Maria !» Et Maria, rougissant fortement, commença à chanter d'une voix fluette et tremblante. Elle chanta « J'ai rêvé que je vivais » et quand elle arriva au 2nd couplet, elle recommença. « J'ai rêvé que je vivais dans les marbres d'un palais, avec des vassaux et des serfs à mes côtés, et pour tous ceux qui étaient assemblés, j'étais l'espoir et la fierté. J'avais trop de richesses pour les compter, je portais le nom d'une haute lignée, mais j'ai rêvé aussi, et c'était le plus grand, que tu m'aimais toujours autant. » Mais personne ne songea à lui faire remarquer cette répétition, et quand elle eut terminé sa chanson, Joe était très ému. Il dit qu'il n'y avait aucun temps qui valût le bon vieux temps, et aucune musique qui dans son cœur surpassa celle de ce vieux Balfe. quoi que les autres gens pussent raconter. Et ses yeux s'emplirent de tant de larmes qu'il ne put jamais trouver ce qu'il cherchait et qu'il dut finir par demander à sa femme de lui trouver le tire-bouchon.